Merci Vincent, bonne fin de week-end. Sur RTL, c'est l'heure de Allo Bouvard. Bonjour Philippe Bouvard.
Bonjour Caroline, bonjour vous tous.
Quel est le programme, cher Philippe ?
Ah ben c'est encore plus que d'habitude, celui qui impose une actualité souvent chaude, pour ne pas dire brûlante. Comment se fait-il que les accidents de la vie soient devenus plus meurtriers que les accidents de la route ? Eh bien, il y a un spécialiste en France qui non seulement connaît bien le dossier, mais qui encore s'évertue à en limiter les dommages. Bonjour docteur Charles-Édouard Notre-Dame.
Bonjour monsieur Bouvard.
Non seulement vous êtes psychiatre et familier de ces problèmes, mais encore vous avez pris la tête de la mission Papa Géno qui se propose de réduire les risques de contagion, c'est le mot que vous employez, mais je crois qu'il est tout à fait opportun, du suicide. Je puise cette certitude, qui est beaucoup plus récente que la vôtre, dans le fait que nombre de tentatives ou de suicides se situent dans l'entourage des suicidés.
C'est vrai, c'est-à-dire que d'être exposé à un geste suicidaire, une tentative de suicide ou un suicide a un effet tout à fait déflagrateur sur les personnes. Les conséquences sont absolument redoutables et ça a un effet de vulnérabilisation très important pour ces personnes qui, de fait, sont très souvent en proie à la détresse et qu'il faut savoir entendre, écouter et soutenir.
Alors la statistique dit également que si les suicides sont légèrement en baisse, les tentatives sont en hausse.
Oui, ce qu'on sait globalement, c'est que pour un suicide, il y a environ 20 tentatives de suicide.
Et puis alors, la statistique fait également des distinguos entre les sexes. Les femmes sont davantage portées vers cette issue fatale. Les âges, les professions. Qu'il y ait beaucoup plus d'employés et d'ouvriers que de cadres, il fallait s'y attendre. Hein.
On sait effectivement que les employés sont plus à risque que les cadres, mais certaines catégories professionnelles sont aussi particulièrement exposées. Par exemple, je pense aux agriculteurs, pour lesquels la problématique est extrêmement prégnante.
Donc, en tête de ce dramatique palmarès viennent les policiers, puis les enseignants, puis les métiers qui sont confrontés avec des problèmes de santé, d'action sociale. Enfin, on note quand même davantage de suicides dans les professions qui disposent d'une arme de service.
Ce qui est sûr, c'est que l'un des premiers facteurs de risque par rapport au suicide, c'est de disposer d'un moyen létal. Et l'action la plus efficace en termes de prévention des suicides, c'est de réduire l'accès aux moyens létaux.
Alors, personne n'est à l'abri, mais enfin la statistique, toujours elle, dit que si il y a 5% de gens qui pensent au suicide dans l'année, il n'y en a pas plus de 17% qui y pensent durant toute leur vie.
C'est vrai, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à noter. L'adage qui voudrait suicidaire un jour, suicidaire toujours, est absolument faux. Et ça va assez bien dans le sens de ce que je vous dis. C'est-à-dire que toutes les personnes qui traversent un moment difficile de leur vie ne sont pas forcément à risque d'idées suicidaires. Mais les personnes qui ont des idées suicidaires à un moment de leur vie, ce n'est pas une fatalité. Et s'ils se font accompagner et si on peut les aider à soulager leur souffrance, dans l'immense majorité des cas, on peut faire disparaître les idées suicidaires.
Alors, dans le traitement médiatique que vous évoquiez à l'instant, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la tradition du suicide, c'est-à-dire les gens célèbres qui ont mis fin à leur jour. Ça, est-ce que ça n'est pas dangereux d'en parler et d'en reparler très souvent pendant des années ?
Je pourrais vous dire très simplement, oui, il ne faut pas en parler. Le problème, c'est qu'on sait dans le même temps que ne pas parler du tout du suicide, c'est faire de ce sujet un sujet qu'on doit passer sous silence, interdit, et du coup un sujet honteux, ce qui est très dommageable pour les personnes qui ont des idées suicidaires, sur qui généralement le poids de la stigmatisation pèse de manière très importante.
Mais que Marilyn Monroe, Romy Schneider se soient donné la mort, c'est quelque chose qui donne à réfléchir, s'agissant de grandes vedettes, de très belles femmes qui avaient apparemment tout pour être heureuses.
C'est vrai, en fait, la manière de véhiculer ce genre d'information donne une image erronée de ce que c'est le suicide. On a l'impression que le suicide, tel que c'était relayé, c'est quelque chose qui est presque glamour, qui est presque un acte fondamentalement libérateur, qui est inscrit dans une forme de légende. La réalité de ces situations-là, c'est que c'était des femmes qui toutes deux souffraient beaucoup, que le suicide était l'issue malheureusement de troubles de santé mentale, de difficultés de santé mentale, et surtout, il ne faudrait pas que le traitement médiatique de ces grandes icônes fasse passer l'idée qu'il y a comme une fatalité et que la seule issue à cette souffrance-là, c'était le suicide.
Et je n'oublie pas dans cette liste Freud lui-même, le patron des psychiatres.
Ça, je pense que vous me l'apprenez.
Vous ne saviez pas qu'il s'était suicidé ?
Que Freud s'était suicidé, non, je l'ignorais.
Bien, bien, je vous remercie, docteur Notre-Dame, et je vous souhaite beaucoup de courage afin que l'espérance de vie finisse par triompher du désespoir.
Merci.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Je suppose que le tollé qui a salué, et c'est sans doute pas le mot qui convient, le projet de vente à la découpe de ADP, c'est-à-dire les aéroports de Paris, ne vous a pas échappé. Et que vous vous posez la question, vous qui en êtes contribuable et copropriétaire, est-ce que nos aéroports sont encore de bonnes affaires ? Ben, pour l'instant, la réponse est affirmative. Puisque depuis la vente du groupe ADP, il y a eu 6 groupes étrangers qui se sont manifestés et qui ont commencé les enchères. Ben, parce que le groupe ADP est quand même le premier groupe mondial, puisqu'il regroupe Roissy-Charles de Gaulle, il regroupe Le Bourget, il regroupe Orly et puis d'autres aéroports internationaux. C'est donc une énorme machine. Alors, bon, étant donné qu'elle est première mondiale sur le plan de l'accueil des passagers, 281 millions de passagers par an, on peut se demander si on ne se défait pas d'un petit pactole. Alors, bien sûr, ça rapportait de l'argent, mais ça va en rapporter davantage en cash que ça n'en rapportait en dividendes. Le plus débile des financiers vous le confirmera. Il y avait quand même un coquet bénéfice de 600 et quelques millions, dont l'État recevait 174 millions au passage, ce qui n'était pas rien, mais là, l'État va toucher presque immédiatement 6 milliards. Et 6 milliards, quand les caisses sont vides et qu'on s'apprête à vouloir financer de nouvelles dépenses, ça n'est pas négligeable. Alors aujourd'hui, ce sont des plateformes aéroportuaires, comme on dit, dont la principale ressource est constituée par les galeries marchandes. Oui, tous les commerçants qui se sont établis et qui font de bonnes affaires, parce qu'il y a non seulement beaucoup de passages et de passagers, mais encore, ce sont des gens à fort pouvoir d'achat. Et puis alors, il y a la redevance que payent les avions lorsqu'ils se posent sur un aéroport d'ADP. Par exemple, quand un Boeing se pose à Roissy, ça rapporte quand même une redevance de 16 000 euros pendant quelques heures, puisque les avions ne restent jamais au sol très longtemps. Mais il y a une autre raison. Alors, si vous voulez, il y a la raison du cash que je viens d'essayer de vous expliquer, mais il y a aussi la raison des moyens dont nous disposons et qui sont très nettement insuffisants, parce qu'il faudrait remettre au pot un argent qu'on ne possède pas. Lorsqu'on pense qu'il faut financer les nouvelles infrastructures qui sont destinées à accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, là, la France n'avait pas les moyens. Alors, aujourd'hui, l'État qui possède 60 et quelques dixièmes du capital, c'est une grosse capitalisation boursière. C'est la première de l'État après celle d'EDF. Elle ne disparaîtrait pas complètement. L'État pourrait garder 20%, auquel cas, il conserverait un droit de regard et même davantage sur la sécurité, sur les investissements et surtout sur les tarifs qu'on ne pourrait pas augmenter uniquement pour faire plaisir aux actionnaires. Enfin, des actionnaires dont il va falloir indemniser une partie, hein, parce que tout n'était pas la propriété de l'État, et ceux qui avaient fait confiance à ADP vont vouloir des miettes du gâteau. Alors, on peut dire que il y a eu une expérience chinoise qui n'a pas été dans le sens de la réussite complète. C'était, je crois, en 2015. Les Chinois ont racheté 49%, mais enfin, ça leur donnait quand même la haute main sur l'organisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et ce faisant, ils souhaitaient mettre la main sur les réserves financières. Alors, c'est là que ça a commencé à gripper. Et puis, d'autant qu'il y avait eu une étude de la Cour des comptes qui avait remarqué qu'en matière aéroportuaire, les Chinois n'étaient pas très expérimentés. Bon, ils vont bien s'en tirer, les Chinois, hein, parce qu'ils avaient acheté Toulouse-Blagnac pour 308 millions. Ils vont pouvoir le revendre au bas mot pour 500. Donc, ils auront fait un joli aller-retour en l'espace de quelques mois. Ah, il faut quand même aussi tenir compte de la réussite de l'aéroport de Nice. Nice, qui est le deuxième aéroport français, qui a été racheté par un groupe italien qui a vu également entrer dans son capital Vinci. Il faut vous dire que Vinci est omniprésent et en même temps un partenaire souhaité mais redouté à la fois, parce que souvenez-vous, c'est à Vinci qu'on a vendu et certains disent bradé nos autoroutes. Et donc c'est Vinci qui empoche des plus-values et des redevances qui auraient dû tomber dans les caisses de l'État. Et alors, c'est d'autant plus important la vente d'ADP que la concession prévoit qu'elle durera 70 ans. Oui, elle ira presque jusqu'à la fin du siècle, et donc c'est une partie de notre avenir industriel, commercial et financier que nous engageons. Alors bonne chance à tous, mais je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est à vos poches.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
C'est un rare privilège dont j'essaie de ne pas abuser, bien que les tentations soient devenues de plus en plus fréquentes, que de pouvoir m'entretenir avec Jean-Pierre Luminet. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour Philippe Bouvard, je suis ravi de vous retrouver.
Astrophysicien de réputation mondiale et le premier sans doute à s'être penché sur les trous noirs. Et c'était il y a 40 ans, hein ?
Oui, alors bon, je n'étais pas le premier à me pencher sur les trous noirs eux-mêmes, mais j'ai été le premier à me pencher sur l'image que l'on pourrait avoir un jour d'un trou noir. Et c'était il y a tout juste 40 ans, en 1979, j'étais encore tout jeune chercheur à l'Observatoire de Paris. J'étais dans un milieu d'astronomes qui ne croyaient pas vraiment à l'existence de ces objets bizarres qui avaient été déjà imaginés par des théoriciens. Et je me suis dit, une idée peut-être excellente serait de calculer avec l'ordinateur. Les ordinateurs de l'époque, c'était des choses à carte perforée, sans système de visualisation, mais bref, de calculer à quoi ressemblerait un trou noir le jour où on aurait des télescopes géants pour les observer.
Alors aujourd'hui, où on vient de réaliser, et avec un dispositif très élargi, la première photo de trou noir, je vous pose la question, qu'est-ce que vous a appris cette photo que vous ne connaissiez déjà ?
Ah ben, en toute honnêteté, ça ne m'a pas appris grand-chose, en ce sens que l'image correspond tout à fait aux simulations que j'avais faites. Alors attendez, je ne minimise absolument pas cet exploit extraordinaire, puisque tout de même, cette image télescopique, finalement, on est passé de l'ordinateur au télescope pour le trou noir. Bon, mais pour en arriver là, il a fallu des prouesses technologiques extraordinaires. Comme vous l'avez dit, mettre en œuvre un ensemble de radiotélescopes disséminés sur toute la planète, les faire fonctionner en réseau pour observer au même moment le même objet pendant plusieurs nuits, accumuler des masses de données absolument considérables qui ont pris 2 années à être calculées et à être traitées dans des superordinateurs pour arriver à sortir effectivement cette première image d'un trou noir. Alors cette première image, on l'a vue partout, on voit une sorte de sphère noire, comme un œil noir entouré d'un anneau de feu flamboyant. Eh bien, c'est quoi? Ben, le trou noir lui-même, évidemment, par construction, vous le savez, le trou noir est invisible, puisque c'est un objet céleste qui emprisonne la matière et la lumière, donc on ne le voit pas. Mais il est entouré de matière.
Alors, question d'astronomie fiction, que se passerait-il si on faisait encore d'autres progrès dans un autre domaine, qui est celui des liaisons interstellaires, et si un avion supersonique, par exemple, s'égarait dans un trou noir?
Oui, alors bon, ça, ce n'est pas pour les années à venir, ni même probablement pour les siècles, mais après tout, peut-être qu'il y a des civilisations galactiques très avancées, beaucoup plus avancées que nous, qui font comme ça des voyages interstellaires dans l'espace et qui s'aventurent dans le voisinage des trous noirs. Alors effectivement, il faudrait qu'elles fassent très très attention. D'abord, il ne faudrait pas qu'elles passent trop près de trous noirs. Les trous noirs qu'on appelle les trous noirs stellaires, c'est des trous noirs relativement petits, beaucoup plus petits que celui dont on parle là, celui de la galaxie Messier 87, parce que cela, avant même de s'en approcher, les vaisseaux seraient détruits par des forces de gravitation qui les étireraient sous forme de spaghettis. Personne ne pourrait survivre. Donc il vaudrait mieux explorer les très gros trous noirs, comme celui justement qui vient d'être photographié, celui de la galaxie Messier 87, où on pourrait s'en approcher et même franchir sa surface, qui est une surface immatérielle, ce qu'on appelle donc l'horizon des événements. Le problème après, effectivement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a franchi le trou noir? Comme je l'ai dit, on ne peut pas en ressortir. Et où est-ce qu'on va? De deux choses l'une, soit on va au fond et on est écrasé, on est détruit, donc c'est un voyage sans retour, ou soit, comme on a pu l'imaginer, à la fois des théories de physique qui ne sont pas encore confirmées, mais évidemment qui ont été largement exploitées par des récits de science-fiction et des films, comme le fameux film Interstellar, on pourrait éventuellement traverser le trou noir sans encombre et ressortir ailleurs dans l'univers et trouver enfin des raccourcis pour voyager dans l'univers.
Alors enfin, dernière question, mais j'imagine déjà votre réponse. Est-ce que quand on pense, et c'est troublant, au regard que le monde habité porte aujourd'hui sur cet univers désert, et on pense aux frais et aux efforts qu'il a fallu déployer à l'échelle mondiale, est-ce que le jeu en valait la chandelle ?
Oui, ben c'est une question qui revient fréquemment. Combien ça coûte tout ça? Est-ce que c'est la peine de s'occuper de choses qui sont tellement éloignées de nous par rapport à tous les problèmes que connaît notre planète? Bon, d'abord, il faut remettre les choses dans leur juste proportion. Cette collaboration internationale qui dure depuis des années, qui a mis en œuvre des radiotélescopes, plus de 200 chercheurs, etc., le coût total, c'est de l'ordre de 25 millions d'euros. Bon, quand on pense aux flux financiers ou à n'importe quoi, aux chiffres d'affaires de n'importe quelle petite entreprise, ce n'est pas grand-chose. Alors, c'est vrai que ça n'a pas d'utilité immédiate, d'utilité pratique immédiate, mais pour moi, et j'espère pour beaucoup de nos auditeurs, la simple connaissance et la curiosité scientifique sur les mystères de l'univers qui nous entoure n'ont pas de prix. Et ça justifie très très largement les efforts qui sont entrepris, qui révèlent aussi la façon également dont la science, bien menée et bien conduite, conduit à une admirable collaboration internationale, où l'on fait fi après des différences d'opinion entre les divers pays qui collaborent vers un but extraordinairement grand et élevé et noble, c'est-à-dire effectivement essayer de comprendre quelques-uns des mystères de l'univers. Après, vous savez, on ne peut pas garantir qu'un jour, finalement, ces travaux qui semblent, je répète, très éloignés des activités humaines ordinaires, ne trouveront pas finalement une application qui sera bénéfique pour, dans l'histoire de l'humanité.
Merci, bravo Jean-Pierre Luminet.
C'était un plaisir de parler avec vous.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi les Français ont-ils de plus en plus de chats? Ben, Victor Hugo, je crois, avait répondu dans une formule célèbre il y a bien longtemps. Dieu a créé les chats pour que l'homme puisse caresser un fauve. Mais quelqu'un de plus récent, je crois que c'était François Giroud, avait dit aussi, on ne possède pas un chat, c'est le chat qui vous possède. Alors, il faut reconnaître que la France est la patrie des animaux de compagnie, mais qu'il y a une différence, et même plusieurs différences, entre les chats et les chiens. D'abord, il y a 13 millions de chiens, et il y a seulement 7 millions de chats. Ensuite, le chat est attaché à la maison et le chien au maître. Enfin, c'est la constatation qu'on fait généralement. À telle enseigne, d'ailleurs, qu'il est courant qu'un chat trouve un abri et une nourriture dans deux foyers à la fois. Il mène généralement une double vie, alors que le chien se contente d'une seule. Alors, il y a aussi le coût annuel d'un chien qui est plus élevé, deux fois plus élevé que celui d'un chat. Il y a le fait que le chien est parfaitement domestiqué et le chat pas du tout. Et souvent, il répond même pas à son nom. On ne peut rien lui apprendre, même si certainement, il comprend beaucoup plus de choses qu'il n'en a l'air. Les chats qu'on connaît surtout, parce qu'ils sont les plus nombreux, ce sont les chats de gouttière. Les chats de gouttière qui sont souvent des animaux caressants et qui apportent une compagnie à des gens qui autrement seraient complètement seuls. Ça ne remplit pas évidemment la case des animaux de race comme les siamois, les persans, les chartreux qui sont des animaux extrêmement prisés et qu'on voit apparaître dans de nombreux concours. Alors je voudrais quand même signaler qu'il y a beaucoup plus de chats stérilisés que de chiens. Et pourquoi ? Peut-être parce que dans ces ébats amoureux, le chat fait davantage de vacarme et que l'homme, égoïstement, a choisi de le priver de plaisir pour ne pas troubler le sien durant la nuit.
Allô ? Ici Bouvard sur RTL.
Eh bien, l'expression de la semaine, c'est la conférence de presse, un rituel républicain qu'on attendait depuis 2 ans et qui vient enfin de se produire. Bon, alors du coup, on en était resté à la fameuse formule assassine du général de Gaulle, recevoir un grand nombre de journalistes, quel plaisir, un petit nombre, quel ennui, et un seul, quel supplice. Bon, alors sauf évidemment lorsque le général recevait Michel Droit, dont il avait fait son confident favori et quasi officiel. Alors, quant à Macron, qui quand même a eu, durant sa période électorale, des relations quasi normales avec les desservants de l'information, il a très vite trouvé d'autres formules qui n'étaient pas plus aimables à notre égard. Hein. Il a dit, c'était quand même un aveu qui risquait de lui coûter cher et qui peut-être lui a coûté cher, il a dit « les journalistes ne sont pas mes amis ». Et il a ajouté « les journalistes posent des questions qui n'intéressent que les journalistes ». Ce qui reste à voir, et puis bah, c'est quand même les questions qui intéressent les journalistes, qui défraient la chronique et qui finalement informent ceux qui ne sont pas journalistes. Et puis, dans la foulée, il a boycotté hors du palais de l'Élysée la salle de presse qui y trouvait traditionnellement asile. Enfin, il a eu une petite phrase, mais ce n'est pas la seule à l'égard des journalistes. Il a dit « ils veulent me donner des leçons de morale alors qu'ils sont dans le copinage et le coquinage ». Oui, nous sommes des copains et des coquins. À dimanche prochain.
Merci Philippe, bon dimanche et à la semaine prochaine. Sur RTL après les infos, l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit.